always, you'll never get away. And no matter what men say, cause you I love the most from pillar to post. You be with till the day, and love is not to govern, then and love is not to boast. But I never will let them all back on you, but I never make you blue. You'll never get away. Good God, some men say, you'll never get away. Truly gonna love you, you'll never get away. So the children really say, we don't know to the back of the bed to the use and sit and play. Say you will never get away. Good God, boof, boof, never get away. Brrr, so mistake, you will never, could I never, never, ever, ever get away.
Oh!
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Vous écoutez Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 14h à Beyrouth. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous.
Avec à la une la situation au Moyen-Orient et la situation notamment au Liban.
Avec une opération terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban, des opérations limitées ciblées contre le Hezbollah, nous ferons le point avec notre correspondante en Israël sur cette incursion. Et nous irons aussi au Liban, dans l'hôpital de Nabatieh, non loin de la frontière, avec nos envoyés spéciaux.
Au programme également la guerre en Iran, Washington qui met la pression pour sécuriser le détroit d'Hormuz.
Donald Trump demande à ses alliés et à la Chine d'envoyer des navires militaires. Objectif, protéger les pétroliers dans la stratégique détroit d'Hormuz, un passage vital, on le sait, pour le commerce mondial des hydrocarbures.
Et puis les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui affecte la Moldavie voisine.
La Moldavie a déclenché une alerte à la pollution après un déversement de carburant dans le fleuve Niestre.
Au sommaire également, les élections municipales en France.
Les alliances et les tractations en vue du second tour sont en cours. Le premier tour hier a vu une poussée de la France insoumise et du Rassemblement national. Gros plan sur Marseille où il pourrait y avoir un séisme politique.
Et puis enfin les Oscars à Hollywood.
Une bataille après l'autre triomphe avec l'Oscar du meilleur film. La fresque politique de Paul Thomas Anderson remporte la plus célèbre statuette du cinéma mondial.
RFI Midi.
C'est officiel depuis ce matin, il y a bien une offensive terrestre israélienne en cours dans le sud du Liban.
L'armée israélienne étend son champ d'opération au Liban, c'est ce qui a été annoncé ce matin par les autorités. Frédéric Misselin, on vous retrouve à Jérusalem. L'armée reste quand même, malgré cette annonce, très discrète sur les détails de l'intervention.
Oui, après une campagne de bombardement massif sur le Liban, l'armée israélienne annonce aujourd'hui mener des opérations terrestres limitées et ciblées. Depuis plusieurs jours, il y avait déjà des incursions de blindés israéliens et de troupes dans le sud du Liban. Ce matin, le porte-parole de l'armée dit que la zone d'opération a été étendue, mais sans préciser jusqu'où. Certains médias israéliens parlent de plus de 7 km de profondeur, sans confirmation officielle. C'est la division 91 qui est est à la manœuvre et les opérations semblent se dérouler sur la partie est de la zone frontalière. Des sources libanaises citées par Reuters disent qu'un village situé à 6 km de la frontière a été encerclé. Dans son communiqué, l'armée israélienne parle d'efforts défensifs, mais Israël ne fait pas mystère de son intention d'instaurer par la force une zone tampon à sa frontière nord pour protéger ses habitants ciblés par les roquettes du Hezbollah. Depuis hier, des informations contradictoires circulaient sur d'éventuels pourparlers entre le Liban et l'État hébreu. Yair Golan, le chef de file de la gauche israélienne, met aujourd'hui en garde contre une campagne terrestre prolongée au Liban.
Merci Frédéric Misselin qui était donc en Israël, direction maintenant le Liban de l'autre contrée de la frontière. Nous retrouvons donc nos envoyés spéciaux Abla Jounaïdi et Jad El Khoury. Bonjour Abla.
Bonjour.
Vous êtes à Nabatieh qui est un centre urbain qui a donc été défiguré par les bombardements.
Oui, sur la route, une série d'immeubles éviscérés durant cette guerre ou la guerre précédente en 2024. Le centre-ville de Nabatieh est un amas de ruines. Sur la place centrale, le vieux marché n'existe plus. À la place, une petite foule de 100 personnes sur les 75 000 habitants que comptait Nabatieh avant la guerre. Ils viennent récupérer tous les jours un peu d'aide alimentaire distribuée par la défense civile. Ces gens-là n'ont pas les moyens de partir. Et depuis Nabatieh, on entend le fracas des combats. À 15 km d'ici, plus à l'est, il y a Riyam. Cette nuit, le Hezbollah dit avoir visé là-bas des troupes israéliennes prêtes à avancer en direction du nord. D'ici, on entend les tirs de roquettes de la milice chiite, auxquels répondent les frappes de l'armée israélienne. Au milieu de ce fracas, il y a l'hôpital gouvernemental où le directeur et ses équipes ont décidé de s'installer à résidence, le temps qu'il faudra pour accueillir les blessés de cette guerre.
Abla Jounaïdi avec Jad El Khoury au sud Liban donc.
L'Iran qui subit lui toujours les frappes des États-Unis et d'Israël aujourd'hui lundi, en ce lundi 16 mars.
Israël a annoncé mener de nouvelles frappes en Iran sur Téhéran, Shiraz dans le sud du pays et Tabriz dans le nord-ouest. Nous en sommes au 17e jour de l'offensive menée conjointement donc par l'Israël et les États-Unis. Un civil palestinien a été tué près de la capitale émiratie Abu Dhabi, à Al-Bayya, lorsqu'un missile a frappé sa voiture ce matin et puis une attaque de drone a provoqué un incendie dans l'importante zone industrielle pétrolière de Fujairah sur le côté oriental des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite, elle, a intercepté 61 drones dans l'est de son territoire. Aux Émirats Arabes Unis, le ministère de la Défense a également fait état lundi matin de l'interception de missiles et de drones en provenance d'Iran. L'Iran, qui se dit prêt à aller aussi loin que nécessaire dans la guerre contre les États-Unis et Israël, c'est ce qu'a affirmé ce matin le chef de la diplomatie iranienne. Je pense qu'à présent, ils ont retenu la leçon et compris à quel genre de nation ils avaient affaire. Une nation qui n'hésite pas à se défendre et est prête à poursuivre la guerre jusqu'au bout où qu'elle mène et aller aussi loin que nécessaire. Alors que cette guerre lancée par les États-Unis et Israël paralyse le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump veut que d'autres pays que le sien s'impliquent afin de sécuriser la navigation dans le couloir crucial pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Donald Trump peut-il convaincre d'autres États d'agir ?
En tout cas, le ton est menaçant quand Donald Trump évoque des conséquences très mauvaises pour les pays de l'OTAN si les pays de l'Alliance refusent de s'impliquer. Pour faire pression sur Pékin, sur la Chine, le président des États-Unis évoque un report de son voyage en Chine prévu à la fin du mois. Donald Trump, donc, qui a initié cette guerre contre l'Iran, malgré les innombrables mises en garde, alors que ce conflit entraîne un choc économique mondial, il trouve normal que ceux qui tirent profit du détroit d'Ormuz contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas. Fin de citation.
Et pour l'instant, Nicolas, pas d'écho à cet appel du président des États-Unis.
Réponse très sèche de l'Allemagne qui rappelle que la guerre en cours n'est pas la guerre de l'OTAN. L'OTAN est une alliance pour la défense du territoire de ses membres, rappelle le porte-parole du gouvernement de Berlin. Le Japon n'envisage pas de déploiement dans le détroit d'Ormuz et rappelle que sa constitution pacifiste l'en empêche. Refuse poli mais clair de l'Australie qui n'enverra pas de navire.
Et d'autres réfléchissent encore.
Le Royaume-Uni dit travailler avec ses partenaires sur un plan viable pour rouvrir le détroit d'Ormuz, mais le Premier ministre britannique Keir Starmer enfonce le clou. Ce ne sera pas une mission de l'OTAN. Du côté de l'Union européenne à présent, on discute aujourd'hui même à Bruxelles du recours à une mission qui existe déjà, Aspides, qui a été conçue pour protéger les navires marchands dans d'autres eaux, celles de la mer Rouge. La semaine dernière, rappelons-le, hein, la France avait évoqué une mission internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
Merci Nicolas Falaise. Et l'Iran met en garde les pays qui pourraient répondre favorablement à cet appel de Donald Trump. Cela pourrait mener à une escalade et à une extension du conflit, menace Téhéran.
Toujours à propos de ce conflit, on se penchera dans 10 minutes environ avec notre invité sur un autre aspect, ce sont les conséquences environnementales. Les autorités de Téhéran ont dénoncé un écocide après les frappes menées il y a quelques jours par Israël contre des dépôts pétroliers.
Et un mot concernant l'énergie. Les ministres européens de l'énergie doivent annoncer d'ici ce soir des mesures destinées à enrayer la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre. Un plan d'urgence pour protéger les consommateurs est en réflexion avec de nouvelles aides publiques et des taxes allégées.
Autre guerre qui se poursuit entre la Russie et l'Ukraine.
Des explosions en série ont retenti ce matin dans le centre de Kiev. Les autorités parlent d'une rare attaque de drones russes en pleine journée sur la capitale ukrainienne. L'armée de l'air fait état de plusieurs groupes de drones de combat et d'au moins un missile.
Une guerre qui a des conséquences environnementales, là aussi, et en dehors des frontières ukrainiennes.
La Moldavie a déclenché une alerte à la pollution après un déversement de carburant dans le Niestre provoqué par une frappe militaire russe en Ukraine. En cause, selon les autorités, une frappe russe lancée le 7 mars contre une centrale hydroélectrique située en amont de la rivière en Ukraine. L'impact est immense. Fleuve frontalier entre l'Ukraine et la Moldavie, le Niestre constitue l'un des principaux cours d'eau de la région. Face à l'ampleur de la propagation, la Moldavie a demandé l'aide de l'Union européenne. Plus de détails depuis Bucarest avec notre correspondant Guillaume Bernès.
Les premières traces d'hydrocarbures dans le Niestre ont été observées mardi dernier. Plusieurs prélèvements du fleuve affichent alors des dépassements de 2,5 fois les concentrations acceptables de produits pétroliers. Depuis, la marée d'hydrocarbures continue de se déplacer le long du cours d'eau par vagues successives. La quantité de carburant répandu n'est pas encore confirmée, mais les autorités ukrainiennes évoquent une fuite de grande ampleur. La Roumanie voisine a dépêché ce week-end une équipe d'urgence de 10 personnes. Ce groupe a installé notamment un barrage flottant en travers du fleuve afin de contenir en surface la nappe d'hydrocarbures. La marée est toutefois loin d'être maîtrisée. Les autorités moldaves ont déclaré l'état d'alerte environnementale dans le bassin du Dniestre pour une durée de 2 semaines. Face au risque de contamination, la distribution d'eau courante dans plusieurs villes du nord du pays a également été suspendue. À Beltsy, ville située à plusieurs dizaines de kilomètres du fleuve, des files d'attente de plusieurs mètres se forment devant les puits de la ville depuis jeudi. Les habitants interrogés confirment encore trouver des bouteilles d'eau dans les magasins. Guillaume Bernès, Bucarest. RFI.
Et puis un tribunal azerbaïdjanais a condamné un Français, Martin Rian, à 10 ans de prison pour espionnage. Le procès de cet homme d'affaires qui vivait depuis 4 ans à Bakou au moment de son arrestation en décembre 2023 avait débuté en janvier 2025. Le parquet avait requis 11 ans de prison.
En France, journée très politique après le premier tour des élections municipales hier. Premier tour marqué par des poussées du Rassemblement national et de bons scores de la France insoumise.
Et à Paris, Emmanuel Grégoire, à la tête d'une alliance emmenée par le Parti socialiste, est leader avec 38% des voix. Il devance de 13 points Rachida Dati, candidate Les Républicains et Modem. À Lyon, une surprise, la figure du football de 76 ans, Jean-Michel Aulas, a été pendant plusieurs mois largement donné en tête des intentions de vote, jusqu'à 20 points d'écart. Finalement, son principal concurrent, le maire sortant écologiste Grégory Doucet, a réussi à le rattraper. Les deux hommes sont au coude à coude. Marseille, de son côté, est peut-être le point crucial de ces municipales. C'est la deuxième ville de France et dimanche prochain, elle pourrait être administrée par le Rassemblement national. À l'issue du premier tour des municipales, le candidat du RN, Franck Alizio, est en effet au coude à coude avec le maire sortant d'hiver gauche, Benoît Payan. Et une quadrangulaire s'annonce pour le second tour avec la présence de l'insoumis, Sébastien Delogu, et de la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal. Un séisme politique diversement apprécié par les Marseillais. Reportage Aurélien Devernois.
Le soleil a remplacé la grisaille de dimanche au-dessus de Marseille, mais pour Tahar, l'horizon s'est obscurci dans la cité phocéenne.
C'est le choc. Vous ne pouvez pas l'imaginer si ça sort le Rassemblement national, hein, parce que c'est une ville cosmopolite.
Satisfaction contraire pour Gisèle, qui espère du changement dans la ville.
Beaucoup de choses, la sécurité, le respect de la police et de tous les citoyens. Hein. Il n'y a plus rien qui va.
Le maire Benoît Payan a déposé sa liste pour le second tour ce matin, refusant donc définitivement l'offre d'alliance de la France insoumise, ce qui inquiète Jacques.
Je vois qu'il y a un pari un peu risqué du maire de ne pas vouloir faire alliance. Je suis plutôt d'avis de cette position compte tenu des insultes insulte qu'il a reçue. Mais c'est risqué pour moi, évidemment. La catastrophe principale serait la venue de l'extrême droite.
Richard, lui, ne peut pas voter. Américain, il vit à Marseille quelques mois par an et a l'impression d'être poursuivi par un cauchemar.
Aux États-Unis, c'est pas bon. J'ai attendu un meilleur résultat ici.
Benoît Payan, qui mise sur une remobilisation électorale des Marseillais, seuls 52% des électeurs se sont déplacés lors du premier tour. Aurélien Devernoy, Marseille, RFI.
Et deuxième tour donc dimanche prochain. Le choix pour le second tour du 22 mars devront être tranchés au plus tard demain à 18h. C'est le dernier délai pour déposer ces listes en préfecture.
En France toujours, l'ancien président Nicolas Sarkozy est de retour devant la justice.
La liberté ou la prison et le déshonneur. L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy affronte l'une des échéances les plus décisives de sa vie avec l'ouverture cet après-midi du procès en appel de l'affaire du financement libyen qui lui a déjà valu une incarcération à l'automne. L'ancien président français avait été condamné en première instance à une peine de 5 ans de prison puis incarcéré avant d'être remis en liberté 20 jours plus tard.
Et puis on termine avec l'heure des récompenses. Hier soir à Hollywood, c'était la cérémonie des Oscars.
Et le duel attendu a bien eu lieu. 6 statuettes pour Une bataille après l'autre, un film épique, politique et comique. Et 4 pour Sinners, ce film de vampires et métamorphose sur le racisme. Résumé de la soirée depuis Los Angeles avec Loïc Piala.
The Oscar goes to One Battle After Another.
C'est Nicole Kidman qui a remis l'Oscar du meilleur film à l'équipe d'Une bataille après l'autre. Le 6e de la soirée pour le chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson. Il a reçu lui-même une statuette pour la réalisation et la meilleure adaptation.
J'ai écrit ce film pour dire pardon à mes enfants à cause du monde chaotique qu'on leur laisse, mais aussi avec l'espoir qu'ils feront partie de la génération qui nous apportera du bon sens et de la décence.
Sinners réussit lui une razzia rare pour un film d'horreur. Oscar du scénario, de la musique et un peu d'histoire. Autumn Arcapo est la première femme à gagner l'Oscar de la meilleure lumière. Michael B. Jordan, meilleur acteur, a, c'est rare, salué les spectateurs.
Et merci à ceux qui ont soutenu Sinners, qui ont vu le film 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous avez fait son succès.
Si ces Oscars n'ont pas été aussi politiques qu'on aurait pu l'imaginer dans le climat actuel, ils n'ont pas échappé à quelques allusions. Javier Bardem, par exemple, venu remettre l'Oscar du meilleur film étranger au long métrage norvégien, Valeur sentimentale.
Non à la guerre et Free Palestine.
Côté français, déception pour un simple accident et Arco, mais deux personnes échangeant de la salive remportent lui l'Oscar du court-métrage à égalité avec The Singers, la 7e égalité seulement dans toute l'histoire de la cérémonie. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
13h15 à Paris, la suite d'RFI Midi, Anne Cantner.
Merci Olivier Charman. La suite, c'est le sport. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Anne.
Veille de
retour
des champions.
je vois que t'as snap du matin au soir. Quand j'entends ce refrain-là, je ne peux plus m'asseoir. Sur le plan des vannes, je ne suis pas en panne. Je m'appelle Sibiane, je break comme une liane.
Oh, je fais des graffitis comme Papa Freddy. Je bande tous les murs de Paris City. Tout le monde me connaît, je m'appelle Mr. C.
Écoutez la basse.
Bye.
planète.
Alors pour cette deuxième émission en Camargue, la semaine dernière on a vu la réserve, donc qui est le départ de cette grande aventure de la Camargue comme lieu de nature, de préservation de la nature. Et il y avait un endroit que je voulais également vous présenter, c'est le parc ornithologique, parce que la Camargue c'est immense. Quand on est une famille, quand on est en situation de handicap, on n'a pas forcément accès à ces étendues. On peut pas faire 15 km pour aller observer des oiseaux dans un coin. Et ici les choses sont plutôt bien faites. On est au parc ornithologique du pont de Gaux et les gens sont bien faits pour à la fois observer la nature facilement et donner l'impression de nature, comme si on était vraiment vraiment en pleine nature. Je vous présente Frédéric Lamouroux, qui est donc ici chez lui. C'est une aventure, il va nous la raconter, une aventure familiale. Et donc je te laisse Frédéric présenter cette aventure aux auditeurs.
On est dans le sud-ouest de la Camargue, on est vraiment presque à l'extrémité ouest de la Camargue et du département des Bouches-du-Rhône. On est à peu près un kilomètre à vol d'oiseau du Petit-Rhône, donc juste pour nous situer. Et ici, en fait, on est sur d'anciens marais de chasse. Donc historiquement, sur ces marais-là, dans les années 40, 50, voire 60, on chassait le gibier d'eau.
Et puis, qu'est-ce qu'on chassait ici ?
Les canards principalement. C'était un peu l'activité, c'est toujours l'activité de chasse en Camargue, hein, la plus prisée. Et puis en fait, dans les années 70, il y a eu à la fois un changement de mentalité, parce que c'est les débuts en fait des promotions des lois sur la protection de la nature. C'est la date de la convention Ramsar qui définit en fait la protection des zones humides, la création du WWF. Donc bref, on est sur un changement un petit peu de une prise de conscience. Et donc ici en fait on a souhaité aussi pareil imprimer cette prise de conscience et changer un petit peu la donne au niveau du territoire. Et donc on a changé l'affectation de ces marais, puisque on est passé de zones de chasse à des zones protégées. Donc l'idée c'était de rentrer sur une zone protégée et de permettre à des visiteurs d'aller vers la nature, parce qu'en fait jusqu'à présent dans les années 50-60 on observait les oiseaux soit dans des cages, dans des zoos, soit dans des espaces, mais il fallait quand même être super équipé, super connaisseur, ce qui était quand même ça ne couvrait qu'une toute petite partie de la population. Et donc nous on a souhaité en fait ouvrir ça à...
C'est ton grand-père, c'est ça ?
Alors c'est mon père principalement, hein. Donc il a souhaité ouvrir ça à un public beaucoup plus large et permettre à des néophytes, des non-connaisseurs, d'accéder au monde des oiseaux, parce que souvent les oiseaux c'est furtif, ça a peur, c'est farouche, donc on n'a pas un lien et un apport qui est très affectif. Oh là là, les flamands s'énervent. Et donc ce qu'on a souhaité c'était vraiment de réduire la distance et de permettre à tout le monde de pouvoir observer des oiseaux. Plus on est proche d'un oiseau, plus on peut le voir, plus on va l'admirer et on va créer un lien. On va créer une sorte de lien affectif, et ce lien affectif, il permet d'avoir une conscience de protection. Et nous, derrière, ça nous permet de remplir nos missions de protection et de sensibilisation, puisqu'une grande partie de nos missions, en fait, ça va être d'expliquer, d'éduquer, même si j'aime pas trop ce mot, mais surtout de sensibiliser à la protection de la nature par le biais des oiseaux.
Comment ça se fait que ces flamants roses-là, ils restent là, vous leur donnez à manger quand même ?
Alors ils ne restent pas là. Il faut savoir que les flamants qui sont là, ils sont arrivés ce matin. Pour la plupart, ils vont repartir tout à l'heure, dans l'après-midi ou le soir. Et puis demain, il y a d'autres qui vont venir et qui vont rester une heure, deux heures, 10 minutes, un quart d'heure, quelques heures, etc. Donc la population de flamants, en fait, elle tourne en rond tout le temps. C'est un oiseau qui est extrêmement prospecteur et qui va en fait alterner toutes les zones en fonction des niveaux d'eau, de la qualité des eaux. Si on regarde la configuration en fait de ces marais, on va avoir des pistes de décollage, des pistes d'atterrissage, des zones qui sont orientées, voilà, une femelle qui s'en va là, voilà, hop, elle part, elle tourne, qui vont permettre à ces oiseaux-là en fait d'atterrir, de décoller de manière relativement tranquille.
Mais pourquoi ils viennent ici alors qu'il y a des gens partout ?
Parce que d'abord les humains sont les seuls qui